Ottawa, Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Le Monde aujourd'hui, édition du mardi 1er février 2022. Jean-Roger Dion à ce micro. Bonsoir à tous à la une de nos informations. La France se donne encore quelques jours pour décider de l'avenir de la force européenne anti-djihadiste au Mali. Au Burkina Faso, la junte a tenu des consultations aujourd'hui avec les partis politiques à Ouagadougou. Amnesty International accuse Israël d'imposer aux Palestiniens un régime d'apartheid. L'État hébreu riposte, Amnesty fait le jeu des terroristes. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken s'est entretenu avec son homologue russe Sergei Lavrov pour tenter de faire baisser la tension autour de l'Ukraine. Cannes 2021 au Cameroun, Emmanuel Violentap nous rejoint dans un instant en ouverture dans le journal des sports. Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021, la compétition passe aux demi-finales demain avec le choc Burkina-Sénégal. Le derby ouest-africain met aux prises deux équipes ayant des nationaux comme sélectionneurs. Bien entendu, un seul va pouvoir représenter l'Afrique de l'Ouest à la finale de dimanche. Gros plan ce soir sur l'un des demi-finalistes, à savoir le Burkina Faso. Pour le journal de la CAN, retrouvons à Yaoundé Emmanuel Jolinta. Bonsoir Emmanuel.
Bonsoir. Sénégal-Burkina Faso paraît un match déséquilibré sur le papier au regard du classement FIFA. Le Sénégal est la première sélection africaine depuis plus de 30 mois et occupe la 20e place mondiale. Son adversaire, le Burkina Faso, est au 61e rang mondial. En 12 rencontres déjà disputées entre les deux pays, le Sénégal part avec un léger avantage, avec 3 victoires pour les Lions de la Teranga contre 2 en faveur des Étalons. En phase finale de la CAN, le Sénégal et le Burkina Faso se sont déjà rencontrés 2 fois. En 2000, les Lions de la Teranga l'avaient emporté 3-1 et en 2004, un match nul 0-0 avait soldé la confrontation. Dans l'ensemble, 7 scores de parité ont déjà sanctionné les matchs Sénégal-Burkina Faso. Ce matin, le sélectionneur national de l'équipe du Burkina, Kamou Malo, et son vice-capitaine, Hervé Koffi, ont animé la conférence de presse d'avant-match. Le coach burkinabé dit qu'il ne compte pas rompre avec sa philosophie et ses plans de jeu dans le match contre le Sénégal.
Nous n'allons pas changer notre identité parce que nous devons affronter le Sénégal. Nous savions déjà que le Sénégal, c'est une grosse armada. Et c'est en tout cas l'un des meilleurs pays du foot en Afrique. Alors, quand vous jouez une telle équipe, l'essentiel, c'est de rester vous-même. Alors, on ne va pas, en tout cas, venir à cette compétition, à ce match, avec un match, avec une image qui n'est pas la nôtre. Nous allons garder notre identité de jeu.
Kamou Malo, au micro de Kader Traoré Mamadou. Sénégal-Burkina Faso, c'est aussi un choc entre Aliou Cissé, l'entraîneur des Lions de la Teranga, et Kamou Malo. Un face-à-face entre techniciens africains, c'est une belle occasion pour faire la promotion des entraîneurs locaux, soutient Kamou Malo, le coach des Étalons.
Aliou Cissé, c'est un dévancier dans ce cercle très fermé, en tout cas des techniciens africains qui sont arrivés à ce niveau. Alors j'ai beaucoup de respect pour le monsieur. Je pense que le combat d'Aliou Cissé est le même combat que je mène, en tout cas pour beaucoup plus de visibilité sur les coachs africains. Alors, il ne faut pas se le cacher, il n'y a pas très longtemps, chaque pays allait chercher son sorcier. Je vais éviter d'énoncer une couleur, mais c'est simplement pour vous dire que nous aussi, nous avons fait. Alors, et pour que nous puissions atteindre nos objectifs, il va falloir que nos dirigeants africains fassent confiance désormais à cette expertise africaine. Et Dieu seul sait, il y en a. Alors, il suffit simplement, on a besoin seulement de cette confiance et de cet accompagnement.
Kamou Malo, au micro de Kader Traoré. La demi-finale de ce mercredi pourrait donner accès pour la deuxième fois au Burkina à une finale de la CAN. Le gardien Hervé Koffi ne veut pas s'arrêter en si bon chemin et promet de tout donner jusqu'au bout.
D'abord, quand on est dans une compétition pareille, c'est le plus important, c'est d'aller le plus loin possible. Ça n'a pas été facile dans le début, voilà, et vous avez remarqué qu'on n'était pas tous les favoris. Voilà, nous aussi, nous souhaitons le travail de faire partie des favoris, mais d'aller le plus loin possible dans la compétition. Et aujourd'hui, je suis satisfait avec l'équipe
Et voilà, je crois qu'on donnera tout aussi pour remporter la coupe, pour gagner d'abord le match de demain. On s'attend déjà à un gros match pour demain. On sait que le Sénégal, c'est une grande nation de foot. Voilà, donc on saura comment aborder le match demain.
Hervé Koffi, le portier du Burkina Faso, au micro de Kader Traoré Mamadou. Sur place au Burkina Faso, le match de demain est très attendu par les supporters burkinabés. À 24 heures du coup d'envoi, Alidou Ouédraogo, notre correspondant à Bobo Dioulasso, a recueilli quelques réactions des supporters.
Bon, ça, là aussi, les classements, bon. Le Burkina Sénégal, ça serait 1-0.
D'accord. Bon. Voilà, Burkina Faso, Sénégal, mercredi. Voilà, qu'est-ce que vous pronostiquez?
Moi, mon pronostic, c'est Burkina va gagner 1-0.
Quel est votre pronostic? Est-ce que vous pensez qu'on va gagner?
Non, on va gagner. Le Sénégal, il nous moins pas. Ils nous ont battu en 2004, mais pour le moment, à cette année-là, nous sommes très forts.
Voilà, Burkina Sénégal, c'est pour mercredi. Voilà, comment vous voyez le match?
Nous, on voit le match en faveur du Burkina.
Mais pourquoi? Vous comptez sur qui?
Nous, on compte sur beaucoup de joueurs.
Mais qui? Comme qui?
Je compte sur Bedrey Djangari.
Le Burkina Faso va faire 2-0.
Mais qui a dit ça?
C'est moi-même qui a dit ça. Le Burkina Faso.
Au cours de notre édition de demain matin, nous reviendrons sur le Sénégal, l'autre demi-finaliste de la CAN du match de demain. C'est tout pour le journal de la CAN. Kader Traoré, Alidou Ouédraogo, Emmanuel Jeunetap, VOA Afrique.
À présent, la suite du journal. Des tirs nourris ont retenti ce mardi après-midi dans le secteur du palais du gouvernement à Bissau, la capitale de la Guinée-Bissau, dans ce que l'Organisation des États Ouest Africains, la CDAO, a qualifié de nouvelle tentative de putsch dans la région. La Guinée-Bissau pourrait ainsi être le théâtre d'un cinquième coup d'État dans la région en moins de 2 ans. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a réclamé dans un communiqué l'arrêt immédiat des combats à Bissau et le plein respect des institutions démocratiques du pays. Une grande confusion régnait en fin d'après-midi dans la capitale et le sort du président Oumarou Sissoko Embalo était inconnu. La France se donne 2 semaines pour envisager son avenir au Mali face à une junte qui vient d'expulser l'ambassadeur français à Bamako. Le point avec Rosine Monizero.
Les pays partenaires du groupement européen de forces spéciales Takuba, créé en 2020 à l'initiative de la France pour partager le fardeau, vont travailler d'ici la mi-février pour prévoir une adaptation de leur dispositif au Mali, a annoncé mardi le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal. Interrogé pour savoir si les troupes françaises allaient se retirer du Mali, le porte-parole du gouvernement a fait remarquer que Paris avait progressivement réduit sa présence et va continuer à le faire. L'Allemagne a estimé mardi que l'expulsion de l'ambassadeur de France est injustifiée, selon un tweet du ministère allemand des Affaires étrangères. Le chef de la diplomatie de l'Union européenne, Josep Borrell, l'a qualifié d'acte injustifié. La Norvège aussi renonce à envoyer un petit contingent militaire qui devait intégrer la force Takuba au Mali, faute d'accord avec la junte qui est en pleine brouille avec les Européens.
Information de dernière heure sur le Mali. Jean-Yves Le Drian persiste et signe. La France reste au Sahel malgré l'irresponsabilité de la junte malienne, a déclaré le ministre des Affaires étrangères. Le chef de la diplomatie française a réitéré les propos qu'il avait tenus la semaine dernière et auxquels Bamako a répondu en exigeant le départ du diplomate français. Notre volonté est intacte, ce n'est pas un événement dû à l'irresponsabilité, je réitère mes mots, dû à l'illégitimité d'un gouvernement de coup d'État qui va nous faire enrayer notre lutte contre le terrorisme, a insisté Jean-Yves Le Drian. Au Burkina Faso, la junte au pouvoir a reçu ce mardi à la présidence à Ouagadougou les responsables des principaux partis politiques du pays. Nombre d'entre eux se disent prêts à accompagner la transition. Claire Morin-Jibou.
Les leaders politiques ont été reçus pendant un peu plus d'une demi-heure par le chef de la junte, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. Eddy Komboigo, le chef de file de l'opposition avant le putsch, a affirmé que le chef de l'État veut aller vite et bien pour ramener la paix. Il a appelé la communauté internationale à lui apporter soutien pour qu'il puisse réussir sa mission. D'autres opposants, comme Alain Zoukba, un ancien proche de Blaise Compaoré, ont indiqué être à l'écoute des propositions de la junte. Alassane Bala Sakande, le président du MPP, l'ex-parti au pouvoir, qui était encore chef du Parlement avant le coup d'État, était également présent au palais présidentiel. Il n'a pas souhaité s'exprimer à la sortie. Il a été autorisé à rendre visite au président renversé, Roch-Marc Christian Caboret, en résidence surveillée depuis le putsch. Hier, une délégation conjointe de la Communauté des États d'Afrique de l'Ouest et de l'ONU a rencontré la junte au pouvoir, estimant qu'elle était très ouverte aux discussions.
Au moins 5 personnes sont mortes lundi dans l'effondrement d'une mine d'or artisanale dans la région de Maradi, dans le sud du Niger, près du Nigeria, région où 18 mineurs avaient déjà péri fin 2021, a indiqué aujourd'hui le maire de la commune touchée. En novembre 2021, après la mort de 18 personnes dans des éboulements de galeries, le gouvernement nigérien avait interdit toute activité sur le site, placé depuis sous surveillance des forces de l'ordre. 4 soldats sénégalais ont été tués et 7 autres pris en otage par des rebelles du mouvement des forces démocratiques de Casamance lors d'un affrontement le 24 janvier en Gambie. 3 soldats sont morts lors des combats et un autre a succombé à ses blessures, a annoncé hier soir l'armée sénégalaise dans un communiqué. Un précédent bilan faisait état de 2 morts et l'armée affirme que 7 militaires sont détenus en otage par le MFDC. Le Parlement tanzanien a élu aujourd'hui une nouvelle présidente, Tulia Ackson, 3 semaines après la démission de son prédécesseur, dont les critiques envers la chef de l'État, Samia Suluhu Hassan, avaient révélé les dissensions au sein du parti au pouvoir. Âgée de 46 ans, Tulia Ackson était vice-présidente de cette assemblée depuis 2015. Madame Ackson a été élue face à 8 autres candidats de l'opposition. Au Mozambique, 6 personnes qui tentaient de traverser des cours d'eau en crue à bord d'embarcations en bois après le passage de la tempête Ana sont portées disparues, selon la police ce mardi, quelques jours après la tempête tropicale qui a fait près de 90 morts la semaine dernière. À Madagascar, au Mozambique et au Malawi, le Zambèze et son affluent, le Revubo, ont continué à gonfler avec des pluies continues.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les chefs de la diplomatie russe et américaine se sont reparlés ce mardi après de nouvelles invectives autour de la crise ukrainienne. L'Occident prépare de lourdes sanctions dans l'espoir de faire céder Moscou. Les précisions de John Lydon.
Le chef de la diplomatie américaine Anthony Blinken a exhorté son homologue russe Sergei Lavrov à une désescalade immédiate et au retrait des troupes russes à la frontière ukrainienne, selon un communiqué du département d'État après leur appel téléphonique. Il a souligné qu'une nouvelle invasion de l'Ukraine engendrerait des conséquences rapides et sévères. Il a aussi exhorté la Russie à emprunter la voie diplomatique plutôt que le conflit. Le premier ministre britannique Boris Johnson est à Kiev ce mardi, où son homologue polonais Mateusz Morawiecki l'a précédé. Les États-Unis accusent le Kremlin de préparer l'invasion de l'Ukraine. La Russie dément toute velléité belliqueuse, mais conditionne toute désescalade à des garanties pour sa sécurité, notamment l'assurance que l'Ukraine ne sera jamais membre de l'OTAN et que l'Alliance va retirer ses forces sur ses positions de 1997 avant ses élargissements successifs en Europe orientale. Washington a rejeté ces demandes dans un courrier la semaine dernière, mais laisser la porte ouverte à des discussions.
Amnesty International qualifie d'apartheid la politique d'Israël envers les Palestiniens, accusant l'État hébreu de les traiter comme un groupe racial inférieur. Tel Aviv fustige ces propos de l'ONG des droits humains. Le point avec Abdourahman Dia.
Les politiques cruelles d'Israël de ségrégation, de dépossession et d'exclusion à travers les territoires tiennent clairement de l'apartheid, a déclaré la secrétaire générale d'Amnesty International, Agnès Callamard, lors d'une conférence de presse à Jérusalem, peu après la publication d'un rapport à ce sujet. Qu'ils vivent à Gaza, à Jérusalem-Est, dans le reste de la Cisjordanie ou en Israël, les Palestiniens sont traités comme un groupe racial inférieur et systématiquement dépossédés de leurs droits, a-t-elle ajouté. En réaction, le ministre israélien des Affaires étrangères, Yair Lapid, a vivement rejeté les allégations de l'ONG, estimant qu'elles rapportaient les mensonges répandus par les organisations terroristes. Israël n'est pas parfait, mais c'est une démocratie attachée au droit international, ouverte à la critique, a-t-il argué. En avril 2021, Human Rights Watch avait aussi rejoint les ONG palestiniennes et israéliennes qui avaient décidé d'utiliser le terme « apartheid » pour désigner les politiques d'Israël envers les Palestiniens et les Arabes israéliens.
Voilà pour le journal, vous écoutez VOA.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Dion de retour avec vous pour les dossiers du jour. Au Burkina Faso, les militaires au pouvoir ont dévoilé hier un ensemble de mesures. Le Mouvement Patriotique pour la Sauvegarde et la Restauration, ou MPSR, a rendu public ce qu'il appelle « acte fondamental ». Il rétablit la constitution qui était suspendue et permet ainsi au pays de fonctionner en attendant une charte de la transition. Des réactions de quelques analystes à Ouagadougou avec notre correspondant, Lamine Traoré.
Selon l'acte fondamental rendu public lundi, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba devient président du Faso, chef de l'État et le chef suprême des armées. L'acte fondamental comprend 8 titres et 37 articles. La junte, elle, est composée d'un président assisté de 2 vice-présidents et d'un coordonnateur. Les MPSR devient l'organe central de définition et d'orientation de la politique sécuritaire, économique, sociale, de développement et de la restauration de l'intégrité territoriale. Les mouvements sur la continuité de l'État en attendant la mise en place des organes de la transition. Ce sont là les grandes lignes de ce document.
Cet acte fondamental doit permettre aux autorités de pouvoir prendre beaucoup de décisions en attendant de rédiger la charte de la Constitution.
Albert Nagreogo, directeur de publication du site Libre Info.
Cet acte fondamental a été pris pour permettre de lever la suspension de la Constitution. Vous avez vu que dans la foulée, le directeur général de l'Agence nationale de renseignement a été démis de ses fonctions. Le chef d'état-major général des armées a été démis de ses fonctions également.
Pasien, juriste et analyste politique.
L'acte fondamental du MPSR vient compléter le bloc de constitutionnalité. S'il faut faire une analyse comparée, une approche comparée avec le Mali, c'est que l'acte fondamental également des autorités militaires au Mali a les mêmes dispositions. Donc on peut se dire que si politiquement, juridiquement également aujourd'hui, les deux actes tendent à se rapprocher.
Enfin, Siaka Koulibaly, analyste politique, y voit déjà le déroulement de la transition politique.
L'ouverture d'une transition politique dont la durée reste à définir, qui sera aussi dotée d'un certain nombre d'organes transitoires, en particulier un président de transition et un parlement de transition, étant donné que l'organe juridictionnel est déjà permanent, le conseil constitutionnel est déjà là, la grande justice elle-même est là également. Donc il va s'agir donc de pourvoir à l'exécutif, présidence de la transition, et au parlement.
La junte dit rétablir la constitution dans ses articles qui ne remettent pas en cause l'acte fondamental. Elle l'avait suspendu à la prise du pouvoir lundi. D'ailleurs, le procès Thomas Sankara qui a été suspendu jusqu'au rétablissement de la constitution va se poursuivre demain mercredi. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou, sur le 102.4 FM.
En République centrafricaine, le dialogue voulu par le président Faustin Archange Touadéra est dans l'impasse. Le retrait de l'opposition du comité préparatoire en octobre dernier freine le processus. L'opposition reviendra-t-elle à bord après l'abandon ce lundi des poursuites judiciaires contre ses députés? À Bangui, les précisions de notre correspondant Freeman Sipila.
En octobre 2021, le président de l'Assemblée nationale, Simplice Mathieu Sarandi, réactive un dossier judiciaire relatif à une demande de levée d'immunité des députés, leaders de l'opposition, Anissé Georges Dologuélé, Martin Ziguélé et Aurélien Simplice Zingas. L'opposition se retire du comité préparatoire du dialogue annoncé par le président centrafricain. Une position dénoncée par Faustin Archange Touadéra dans son adresse à la nation à l'occasion du nouvel an.
J'ai souhaité que
le dialogue républicain soit organisé pour nous permettre d'entrer dans la nouvelle année les cœurs légers pour le bien de tous. Malheureusement, tirant prétexte d'une demande de levée d'immunité parlementaire régulièrement introduite par la justice et concernant 3 députés de la nation, une partie de l'opposition démocratique a retiré ses représentants du comité d'organisation du dialogue, paralysant ainsi le fonctionnement du dit comité. Arrêtons de prendre en otage notre pays pour satisfaire les intérêts personnels ou étrangers.
Après des mois de tensions entre pouvoir et opposition, le médiateur entend relancer le processus du dialogue. L.A. Djounoussa Laurent Gonbaba a rencontré la semaine dernière les partis politiques de l'opposition.
Ils m'ont exprimé leurs souhaits, leurs vœux pour permettre à leurs représentants de rejoindre le comité d'organisation. Nous avons échangé sur les différentes questions. On a cherché à mieux comprendre les vœux de l'opposition et je crois que je suis bien doté aujourd'hui pour remonter ces éléments-là à qui de droit.
Tout le monde veut aller au dialogue, affirme Cyriac Gonda, président de la CO de 2020, la coalition de l'opposition démocratique.
Nous avons mené une discussion très fructueuse avec le médiateur sur le blocage que nous avons constaté depuis 3 mois. Il faut que ce dialogue se tienne afin que nous abordons les grandes questions, la souffrance du peuple centrafricain. Je crois qu'après cette discussion, nous avons des pistes pour que les positions bougent et on attend de voir comment ça va bouger.
Quelles lignes doivent bouger pour permettre le retour de l'opposition dans le comité préparatoire du dialogue? L'une des revendications, c'est l'abandon de la procédure de levée d'immunité contre les députés Anissé Georges Dologuélé, Martin Ziguélé et Aurélien Simplice Zingas, accusés de connivence avec l'ancien président François Bozizé. Finalement, ce lundi 31 janvier, la justice a annoncé l'abandon de la procédure. Cette décision est-elle synonyme de retour de l'opposition? Martin Ziguélé, ancien Premier ministre.
C'est ensemble, sur une même liste, que nous avons envoyé des représentants à ce comité préparatoire. Il y a cette situation qui est apparue hier et nous devons nous réunir pour qu'ensemble, on prenne une décision collégiale, dont la démarche n'est pas individuelle. C'est une question politique qui engage l'ensemble de l'opposition démocratique.
Alors que Bangui compte écarter les leaders de la rébellion CPC dans ce dialogue dit républicain, plusieurs voix s'élèvent pour exiger un dialogue inclusif regroupant tous les principaux acteurs de la crise. Freeman Sipila, Bangui, pour VOA Afrique.
Vous êtes sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 en République centrafricaine, à Bangui, sur le 101.7 FM.
Le Mali est connu pour sa musique, ses danses et ses festivals culturels, malgré l'insurrection djihadiste qui affecte son tourisme. 2 coups d'État militaires depuis 2020 et des élections retardées ont conduit les pays d'Afrique de l'Ouest à imposer des sanctions économiques appuyées par l'Europe. Au moment où débute la saison des festivals, les Maliens ne s'empêchent pas de chanter et de danser. De Bamako, le reportage d'Annie Risenberg, le récit est de Jacques Aristide.
Véronique Djeinan Lou est une danseuse interprète ivoirienne vivant au Niger. Elle a été invitée au festival de danse malien Farifoni Wahati. Elle est arrivée en bus le 9 janvier dernier. Le même jour, les dirigeants ouest-africains de la CEDEAO ont décidé notamment de la fermeture des frontières terrestres et aériennes avec les pays voisins. Véronique ne sait pas comment elle va rentrer au Niger. Entre-temps, elle s'est produite sur scène dans l'auditorium bondé de Burma. Ambiance festive malgré les sanctions.
Les gens ne tiennent pas compte de ça en fait. Le gouvernement fait pour eux, nous les artistes on fait pour nous. On s'est dit que juste qu'on est juste une voix, on est la voix du peuple pour pouvoir que les choses changent quoi. Donc quand est-ce que cela va se régler en fait pour qu'on y aille. Donc du coup nous on fait notre activité, nous on continue notre fête et tout quoi.
Avant la prise de contrôle du nord du Mali par des groupes djihadistes en 2012, les festivals culturels maliens attiraient les voyageurs étrangers. Malgré l'arrêt du tourisme, la plupart de ces festivals ont toujours lieu car ils sont très populaires auprès des Maliens eux-mêmes. En dépit des attaques, le festival Ogobania, qui célèbre la culture d'Ogo, se tient pendant une semaine sur les berges du fleuve Niger à Bamako. Cette année marque sa 7e édition. Amasagoudou Nyon est le président du comité d'organisation du festival Ogobania.
Il y a eu encore l'embargo, où il y a eu une inquiétude de quoi va être fait demain. Mais on s'est dit que la culture
est le lieu d'expression neutre où chaque personne n'a pas peur de venir parce que c'est un lieu de culture, un lieu d'échange, un lieu de dialogue. Et ça, c'est le meilleur endroit où les peuples se retrouvent pour discuter et un peu se déstresser.
Pour ce qui est du festival Farifoni Wahati, il dépend beaucoup de participants qui viennent de la région ouest-africaine, mais aussi de pays européens. D'entre eux n'ont pas pu faire le voyage cette année. Mais pour Drissa Samake, directeur général du centre culturel de Blomba, il était hors de question d'annuler le festival Farifoni Wahati.
Aucune action ne peut réunir autant de monde pendant cette période. Ici, ce n'est pas les actions culturelles. Donc, c'est important pour nous quand même de renforcer un peu ce pan, franchement, qui permet quand même d'apporter ce qu'on appelle la cohésion sociale.
Quant au festival Ania à Koulikoro, il aura lieu au cours du mois de février. Alors que beaucoup suivent l'évolution de la situation politique malienne, le pays va indubitablement continuer à vivre au rythme de la musique et de la danse.
La VOA célèbre son 80e anniversaire ce mois de février. L'ancêtre de Voice of America, le service américain d'information étrangère, a diffusé sa première émission en Europe le 1er février 1942, moins de deux mois après l'entrée des États-Unis dans la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, la VOA présente des informations et une couverture des affaires culturelles sur de multiples plateformes en 47 langues. Eric Manirakiza a joint ici à Washington un très ancien de la VOA, Georges Collinet.
Je te coupe, je suis un très ancien.
Ah oui.
C'est la voix de l'Amérique.
Voilà. Voudriez-vous nous rappeler de vos premiers débuts à la voix de l'Amérique? Comment vous arrivez et qu'est-ce qui vous motive pour venir à la voix de l'Amérique?
Vous savez, c'est très bizarre quand on me dit la voix de l'Amérique, c'est à 80 ans, parce que moi-même j'ai 80 ans. C'est très drôle. Ben, je suis arrivé en 1960 aux États-Unis. J'étais un jeune gaillard qui cherchait l'aventure. J'étais jeune, j'étais beau, je sentais bon le sable chaud. Non, j'étais pas légionnaire. Et je me sauvais parce que je ne voulais pas être légionnaire. Je ne voulais pas. Enfin voilà, c'est une autre histoire de toute façon. Mais je suis arrivé ici en 1960 et un jour, un de mes amis avec qui je suis venu ici aux États-Unis m'a dit ah dis donc Georges, je vais aller dans un truc là, je ne sais pas ce que c'est faire de la radio. Ça t'intéresse? Tu veux venir avec moi parce qu'il y a un examen. Et comme tous les deux, on se connaît depuis l'âge de 10 ans, on avait raté plein d'examens et tout. J'ai dit, pourquoi pas un autre examen? Allez, allons-y. Et je suis arrivé dans ce Fisk Building, ça s'appelait, c'était à New York. Et j'ai un monsieur rond. Super sympa, c'était Kenneth Watson, qui était d'origine russe. Et tout le monde prenait des noms américains à l'époque. Et qui me dit, Georges, tu as tout à fait la carrure pour être un bon homme de radio, tu as une bonne voix, est-ce que tu veux faire un apprentissage? Je lui dis, oui, tout de suite, allons-y. Et puis d'un seul coup, on me dit, monsieur Collinet, vous savez, vous seriez mieux si vous venez à Washington DC. Je dis Washington, mais c'est plein de racistes là-bas. Non. Et c'est là que je suis arrivé à la voie de l'Amérique. On était dans des immeubles, dans des préfabriqués, voilà, qui étaient le long de ça datait de la guerre de 1945. Et donc, c'était des baraques préfabriquées. Et on avait nos bureaux là-dedans. Mais les studios eux-mêmes étaient dans le bâtiment actuel de la voie de l'Amérique.
80 ans après, la voix de l'Amérique a beaucoup changé, s'est beaucoup transformée, n'est-ce pas?
Oui, ça a beaucoup changé. À l'époque, nous avions le political will, la volonté politique de faire des émissions qui attiraient les gens. Il y a la télévision qui a pris un peu le dessus, c'est pas évident. C'est parce que nous avons face à nous des FM qui sont quand même des stations de grand rapprochement qui existent. Il y a, il y a beaucoup de choses qui ne sont plus de ce qu'elles étaient, disons. Et je crois que il serait facile de retrouver, disons, cette grande gloire de la Voix de l'Amérique, je crois. Bon, maintenant, quand la Voix de l'Amérique, c'est quand même une station qui nous donne les news, à mon avis, les meilleures news que l'on puisse trouver dans n'importe quelle station de radio.
Georges Collinet, un très ancien de la Voix de l'Amérique. Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Dion à ce micro. Un grand merci à toute la rédaction et à notre équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.